Bienvenue à l'épisode 35 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde!
Et uniquement avec Vincent, puisqu'on a connu quelques problèmes techniques. Et quoi de mieux qu'avoir plein de gars techniques qui connaissent pas vraiment ce qu'ils font puis qui ont de la misère, fait qu'on patauge et on n'arrive à rien.
Moi, je dis que c'est pas notre faute. C'est la faute de tous les autres, sauf nous autres.
C'est la faute de la Terre entière.
C'est ça.
Ouais. C'est effectivement l'approche très moderne de régler les problèmes.
Oui, on est tous des pervers narcissiques.
OK, que ça. Commençons avec les shameless plugs. 13 avril, ce qui est à nos portes. Le colloque, le CQSC, colloque québécois de la sécurité informatique. Deux tracks, plein de conférenciers, plein de sujets abordés. Super hot. Il reste encore des billets. Dépêchez-vous parce que tout ça s'évapore vite. Il va y avoir le 17 avril à Paris, le bar Gandhi en vrai, qui est un espèce de rassemblement au niveau de registrants qui permet aux gens de poser des questions sur des volets qu'on est plus ou moins en contact avec au niveau de la sécurité. 26 avril, Québec Sec, l'anonymat vie privée sur Internet. Le 26 avril, Isaka va présenter place de la gestion des risques en TI au sein de la gestion des risques organisationnels, qui est une approche un peu plus organisationnelle au niveau de la gestion des risques, qui est très intéressant. Damien nous a suggéré deux événements en France. Le 20 avril, qui est maison de quartier de Oisamise, je vais sûrement mal prononcer, qui est à Lille. Et le 24 avril, Focus e-Security à l'Ouvrière, qui est en Belgique, est-ce que c'est d'où? J'ai dû mal prendre l'Ouvrière, excusez. J'ai été un peu croche. Et on va commencer avec les nouvelles, avec Vincent. La France inscrit 78 000 noms sur une liste plus ou moins secrète.
Oui. Alors, c'est pour vous faire part d'une petite statistique puis des moyens que la France prend justement pour s'inspirer d'informations qu'elle connaît pour protéger son territoire. Alors, il y a une base de données dans laquelle est inscrite 78 000 noms, des noms de personnages dangereux. Petite statistique un peu plate, en 2017, la base de données a été consultée 5 milliards de fois, ce qui est extrêmement énorme. Alors,
c'est énorme, puis juste pour donner une ordre de grandeur, on est 7,4 millions d'habitants, 7 milliards d'habitants.
Oui. Ça veut dire que, ben écoutez, petite caricature ici, bien simpliste, on peut imaginer qu'il y a eu 5 milliards de moments de panique en 2017 pour que cette liste-là soit consultée. C'est l'Allemagne, en fait, qui se plaint un petit peu, peut-être pas de l'utilisation abusive de la liste, mais en fait, de la création et puis de la disponibilité pour les forces de l'ordre. C'est pas une liste, en passant, dont l'accès est permis uniquement à la France, mais à plusieurs pays alliés à la France. Mais écoutez, 5 milliards de fois, c'est assez capable.
Ben, ils font référence à la base de données en question, là, c'est le SIIS, qui est le Schengen. C'est l'espace commun européen dans lequel on peut se déplacer sans passeport. Il y a beaucoup de pays là-dedans.
Et puis, cette base de données-là aussi, les données sont croisées dépendamment de l'utilisation qu'ils utilisent pour permettre une surveillance qu'on appelle discrète, ce qui permet justement aux détenteurs, là le détenteur, on va dire ici la France, permet d'aviser ses homologues sur des activités de certains individus. Alors, par exemple, le nombre d'événements qui est passé de 69 475 en 2015, le nombre d'événements est passé à 134 000, donc le double juste l'an dernier. Alors, ce que ça dit, entre autres, c'est que tout individu désigné pour une surveillance discrète, en passant, je lis le texte, vous irez voir l'article, va être immédiatement porté à l'attention des forces de l'ordre s'il est interpellé. tu pourras avoir grillé un feu rouge. Écoutez, ça va extrêmement loin. Du moment que cet individu-là est flagué dans une liste, cette base de données-là réagit. Peu importe qui vous êtes et ce que vous faites. Par exemple, comme l'exemple que je viens de donner, si je suis inscrit dans la liste, mais que je suis pas nécessairement un terroriste, j'ai été inscrit pour toutes sortes de raisons, je grille un feu rouge, ben, et on fait une recherche sur mon nom pour une contravention quelconque, ben, la base de données va générer un flag, va générer une écriture de journal, et puis pouf, va avertir les homologues alliés de ce qui vient de se passer. Ce qui est un petit peu, si vous voulez, mon avis, c'est un petit peu overkill dans mon jargon à moi, mais bon, j'ai pas l'information ici si l'utilisation de cette base de données-là a porté des fruits pour prévenir des attentats terroristes, mais 78 000 noms, 5 milliards de clics, je sais quelque chose.
Ouais, c'est significatif, puis c'est très complexe. C'est quand, pour le peu de voyages que j'ai exécuté en Europe, le modèle des frontières est un peu différent de ce qu'on est habitué en Amérique du Nord, du moins quand on traverse les frontières entre le Canada et les États-Unis, qui sont les frontières les plus communes. Il y a une espèce il y a une différence assez marquée, c'est-à-dire que la plupart des pays européens, entre autres, justement, l'espace Schengen ne fait qu'on ne contrôle rien. Fait que pour eux autres, ça revient à prendre l'analogie, c'est comme si on était aux États-Unis, c'est que traverser d'un État à l'autre, il n'y a pas de contrôle de frontières qui est fait. Fait que pour eux autres, la porosité des frontières dans les différents pays est un aspect différent, mais n'étant pas un citoyen européen, je n'ai pas cette sensibilité-là. Puis d'ailleurs, il faudra en parler probablement avec Damien qui serait en mesure de nous peut-être relativer ou nous détailler davantage cet élément-là sur la réalité européenne par rapport à ça.
Autre statistique là, pour terminer sur ce sujet-là. Par exemple, je parle de la France, mais on va parler ici de l'Union européenne. Il y a plus de 78 600 surveillances discrètes inscrites en France en 2017, ce qui correspond à 60 % du total. Le Royaume-Uni arrive, par exemple, très loin en deuxième, avec quasiment 17 000 inscriptions. Le Royaume-Uni est connu également pour être très avant-gardiste en termes de protection du territoire, même qu'ils sont plutôt intrusifs envers leurs propres concitoyens, mais bon. Et puis, l'Allemagne a inscrit juste un peu moins de 5 000, justement, surveillance discrète. C'est l'Allemagne un petit peu qui tire la sonnette d'alarme là, sur l'utilisation peut-être abusive, ou plutôt l'exploitation, on va dire, abusive de cette liste-là. Je ne sais pas ce qui arrive aux présumés personnages dangereux. Je ne dirais pas terroriste parce qu'on dit que c'est une personne dangereuse qui est inscrite à ce registre-là, mais griller un feu rouge, je ne sais pas s'il pogne juste une contravention ou s'il se fait interpeller, il se fait mettre en garde à vue, puis s'il se fait questionner par des agents, le détecteur de mensonges, etc. J'ai aucune espèce d'idée de l'ampleur de ce que ça peut prendre. Mais bon, la France est sur, on va dire, un pied d'alerte.
Ouais, c'est... En tout cas, c'est très difficile d'évaluer ça avec nos yeux nord-américains parce qu'on n'a vécu pas dans le même genre de contexte. C'est sûr que ton analogie avec l'Angleterre, qui est probablement plus proche de notre modèle à nous autres, est très intéressant parce qu'ils ne sont pas aussi en panique que pourrait l'énoncer la France dans ce cas-ci. Et en ce sens que le fait que l'Allemagne soulève un doute raisonnable sur l'exagération possible de l'usage de cette base de données-là. Et du moins dans ce qui en circule publiquement, et c'est très difficile d'évaluer si cette information-là est pertinente. Puis ça, on est en tant que Nord-Américain plus habitué avec les cours cachés au niveau des États-Unis, où il y a des espèces de procès dissimulés ou des mandats dissimulés, qui fait que si l'information n'est pas mise au grand jour, c'est très difficile d'évaluer la pertinence de cet exercice.
Ça mobilise beaucoup de ressources de l'État pour griller un feu rouge, disons.
En changeant de nouvelles, parce que là, on est en train de s'enliser dans des choses qui sont de moins en moins politiquement correctes. On va discuter de ça. Under Armour, quelque chose un peu de léger aussi, qui, sont de son application MyFitnessPal, aurait perdu en l'équivalent de 150 millions de comptes utilisateurs.
Under Armour qui fait, entre autres, des sous-vêtements d'athlétique, a une application ou un site, si je me souviens bien, mais je pense que c'est plus une application de suivi de performance de santé, perte de poids, etc. Under Armour a eu une fuite de données. On parle ici d'à peu près 150 millions de données d'utilisateurs, ce qui est extrêmement énorme. Surtout que bon, MyFitnessPal a été acquis justement par Under Armour il y a à peu près deux ans et demi, pour 475 millions, qui comptait 80 millions d'utilisateurs à l'époque. Alors, quatre jours après avoir pris connaissance qu'il y avait une brèche et que des données ont pu être compromises, là, on parle ici de, on va dire toutes les données, vos données personnelles et confidentielles, à ceux qui sont abonnés à MyFitnessPal. La compagnie a quatre jours, je trouve ça bien là pour un fameux délai, et puis faire une annonce justement, une divulgation publique là d'une fameuse brèche. Ils ont pris action. Ils ont communiqué justement en premier lieu avec leurs abonnés. Donc, on se fout si vous vouliez ou non avoir des communications sollicitées ou non sollicitées, mais là, c'était pour une bonne raison. C'était pour vous informer justement qu'il y a eu une brèche et que c'était préférable de commencer à fouiller dans toutes vos informations que vous auriez pu mettre sur le site, changer vos numéros de carte de crédit, mot de passe, etc., etc., pour vous protéger. La firme a également fait appel à une firme spécialisée pour aller un petit peu plus intrusivement dans le problème, pour déceler, en fait, soulever toutes les avenues, les options néfastes, quoi que ce soit, possible pour justement bien informer sa clientèle. Alors, bravo, fabricant de sous-vêtements athlétiques.
Ben effectivement, je lève mon chapeau à la rapidité de la déclaration publique. C'est sûr que c'est moche de savoir qu'autant de monde ont été touchés par cette vulnérabilité-là, mais dans la mesure où le fabricant a agi de façon rapide et efficace, c'est une bonne chose. Je sais que puis il y en avait une certaine réflexion par rapport à ça au niveau du RGPD, étant donné que ça commence, on tombe dans le spectre d'application du RGPD. Je sais qu'ils ont réussi à se soustraire à certaines restrictions du RGPD. Ce serait intéressant de voir à quel point cet effet-là a des répercussions sur cette compagnie-là. Mais là, on commence à embarquer dans des domaines beaucoup plus intéressants. Puis ça va être intéressant de voir comment le RGPD va avoir des effets sur ces compagnies-là, parce que sont essentiellement au début. Si cette vulnérabilité-là ou cette faille-là avait été connue il y a 3 mois de ça, à compter de maintenant, disons plus vers l'été, parce qu'il faut dire qu'au Québec, il y a encore de la neige qui tombe. Dans des zones où il fait l'été, je ne suis pas sûr qu'il aurait trouvé ça aussi drôle que ça, que cette vulnérabilité-là ou cette faille-là soit connue publiquement.
Ben, en fait, contrairement à... Là, j'aurais mis un roulement de tambour, tocotom ching. Contrairement à Equifax, ben, la compagnie a agi avec diligence. Et puis, ils ont sûrement un bon avocat et puis une bonne compagnie de relations publiques, justement, pour avoir fait cette divulgation-là. Ils ont pris les mesures, fait qu'on n'a pas encore l'impact monétaire que ça a sur la compagnie. On ne sait pas s'il va y avoir des sanctions quelconques, mais bon, chapeau.
Moi, je reviens encore effectivement chapeau pour la rapidité à laquelle ils ont agi. Puis c'est très louable, parce que pour toute la quantité de compagnies qui gardent ça caché pendant peut-être un peu trop longtemps, puis finalement nous mettent à risque de façon indirecte, c'est très souhaitable. Là, on va commencer à embarquer dans le régime d'application du RGPD. Fait, j'ai très hâte de voir ce que ça va faire. Puis, pour en avoir lu que très brièvement, puis là, je suis loin d'être un expert, je pense qu'ils ont réussi à soustraire du RGPD sur la base que ce n'est pas des informations confidentielles ou personnelles selon les règles du RGPD. Donc, ce n'est vraiment juste des personnes qui sont moins intéressantes de ce côté-là. Ouais. Souhaitons-là le meilleur succès, puis souhaitons-là qu'ils continuent à avoir d'autres compagnies qui aient ce même degré de rapidité, d'efficacité dans la diffusion de ce genre d'informations-là. Oui.
Dernier parallèle que je trouve intéressant à ce sujet-là, ceux qui ont percé justement la barrière pour récupérer ces informations-là, ils avaient un maudit bon filon. Ils ont eu une bonne idée. La perte de poids, c'est un problème de société. Là, on parle de MyFitnessPal, 150 millions possibles d'utilisateurs. Mais la perte de poids, ça touche un paquet de monde. À quel point les personnes, on va dire, intelligentes en technologie pensent aux bonnes affaires quand ils ont envie de faire des mauvaises actions. C'est pas des louanges que je vous fais là, si vous êtes en train de nous écouter.
Non.
Mais c'est quand même une maudite bonne idée là. Vous avez une façon de penser qui va au-delà de juste la portion monétaire avec les banques ou les assurances ou quoi que ce soit. Vous êtes allé vers un autre élément, puis vous avez été en mesure d'accéder à de l'information justement vous permettant de faire de l'argent. Mais bon.
Ouais, bon, on en revient toujours à ça. Là. On a actuellement deux axes qu'on voit beaucoup dans les finalités. Damien nous en parle beaucoup avec tout le fait que la crypto-monnaie devient un axe utilisé pour le crime organisé, tout gens qui veulent faire de l'argent, fait qu'ils vont piggybacker sur les ressources d'un et d'autrui pour ça faire de l'argent en faisant du mining. Sinon, ben on revient toujours au fait de l'information privilégiée. Sans qualifier que le fait que l'attaquant avait une cibler le fait qu'on est dans une société qui s'intéresse beaucoup au bien-être personnel, sans dire de la perte de poids, mais au bien-être personnel, d'amélioration de la qualité de vie. Oui, c'est un axe intéressant. De toute façon, on regarde comment Apple a mis d'énergie sur la sécurité des informations de cette nature-là, fait qu'on sent qu'effectivement, on suppose que l'analyse de risque qui a été faite par les grandes entreprises suppose que cette information-là, elle est d'une très grande valeur et très voulue. Crime organisé, dans ce cas-ci, c'est peut-être limitatif au niveau de choses, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça que cette information soit libérée publiquement pour en bénéficier.
Libérée publiquement. Pensez aux petites controverses depuis un an et demi, où les compagnies d'assurance veulent vous donner une Apple Watch pour vous soustraire d'un examen médical afin de souscrire une assurance vie, une assurance invalidité ou quoi que ce soit, où on voyait que l'utilisation des données allait être transmise justement à la compagnie d'assurance. Oups! Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, les compagnies d'assurance? Est-ce que l'État d'assurance a commandité ce crime-là justement pour utiliser leur droit à se soustraire au paiement d'une assurance invalidité, maladie longue durée, peu importe, sachant que la personne était malade. Bon, OK, là, je dis vague, là. Mais bon, voyez jusqu'où ça peut aller. En passant, je vais essayer de vous trouver les liens sur ce que les compagnies d'assurance, justement, voulaient faire et puis ce qu'un juge a décidé, justement, d'arrêter les procédures au niveau des compagnies d'assurance à ce niveau-là. Parce que ça, c'était vraiment atteinte à la vie privée. Vous savez qu'une compagnie d'assurance pour vous assurer pour la vie, l'invalidité, a sa propre gestion de risque. Si on leur donne tout cru dans le bec, puis c'est blanc ou noir, ils disent oui ou non, ben mon Dieu, ils n'ont plus besoin d'actuaires, eux autres-là. Là.
On leur sort beaucoup de choses, mais effectivement, à mot couvert, c'est essentiellement ça que je voulais aller, là, au sens où cette information-là va être utilisée par des compagnies d'assurance, entre autres, mais ce n'est pas les seuls qui vont être bénéficiaires de ça. Puis on se retrouve dans un contexte où le fait que l'information est devenue publique, est-ce qu'elle est de façon non légitime, si on s'entend dans ce cas-ci? Est-ce qu'elle est utilisable publiquement malgré tout pour ces compagnies-là? Est-ce que d'un point de vue, je sais que nord-américain, on a un régime réglementaire un peu moins efficace que le régime européen pour la protection. Est-ce que les compagnies d'assurance en Amérique du Nord vont prendre ces données-là, les intégrer dans leur modèle et puis nous faire payer selon nos styles de vie qui sont selon leurs actuaires non conformes. Fait que c'est un peu troublant, un peu à la Gattaca.
Oh, très belle analogie. Nouvelle suivante. Les utilisateurs d'appareils Cisco. Cisco vient de justement déclarer une alerte de vulnérabilité critique sur plusieurs de ses appareils, probablement 250 000 qui pourraient être, s'ils ne sont pas patchés, ouverts justement à un exploit de vulnérabilité. Et puis, le petit article ici vient détailler ce que l'attaquant peut faire. Et puis, il y a même une démonstration. Il y a même une démonstration d'une simulation d'attaque, justement, sur un système qui n'est pas patché. Alors, les modèles sont énumérés ici. L'attaquant peut prendre le contrôle de façon tout à fait légitime de votre switch, votre catalyst, votre. Appelez-le comme vous voulez, sur votre appareil exposé qui permet de protéger votre périmètre. Alors, pour les utilisateurs, allez voir le lien. Vous allez avoir les patchs, vous allez avoir les modèles, vous allez avoir la démonstration justement de l'attaque. Et puis voilà, une belle démonstration encore où Cisco fait un bel avertissement.
Ben, c'est bien qu'il fasse ce genre de choses-là. Puis tant qu'elle continue sur ce dévidenté maintenant plus technique, on va embarquer dans Spectre Meltdown, puisque ce problème-là va continuer à nous hanter pendant un bon bout de temps. Tandis que le spectre de la vulnérabilité va être un problème pendant très longtemps. Intel a annoncé que certains nombres de ces processeurs ne pourront pas être corrigés par rapport à la vulnérabilité Spectre version 2, qui est une espèce d'élément étendu et plus prononcé du problème énoncé sur leur processeur. C'est troublant parce que Intel évoque plusieurs éléments, dont la non-exposition de ces machines-là à une menace réelle et efficace pour ne pas mettre les énergies en conséquence pour corriger ces problèmes-là. Donc, c'est questionnant parce que maintenant, les machines qui ne sont pas exposées, c'est un bien grand mot. On peut dire, oui, effectivement, que les bases de données qui sont chez certaines compagnies, puisqu'il y en a même qui exposent leurs bases de données, et cachez-les au plus vite si vous entendez ça. Malgré tout, si on réussit à faire une chaîne d'attaque puis remonter, il demeure que ces bases de données-là vont devenir tôt ou tard accessibles par un attaquant. Donc, de dire qu'ils sont cachés plus loin dans la cycle de vulnérabilité n'est pas une excuse valable pour dire que non, ça ne vaut pas la peine de les protéger. Parce que de toute façon, on dit ça, puis il s'agit qu'on dise « Ah non, mais c'est pas grave ça », puis que quelqu'un fasse la démonstration que non, finalement, on est capable d'exposer les éléments. J'ai un certain malaise face à ce genre d'approche-là où on dit non, on corrigera pas. Fait qu'on vit de façon continue avec le problème, puis il va finir inévitablement par venir nous mordre les mollets pour faire une traduction littérale d'une expression anglophone. Fait que c'est gros malaise. Si on continue avec, dans ce cas-ci, le côté meltdown. Microsoft vient d'émettre un correctif pour corriger certains éléments par rapport à Meltdown qui finalement venait introduire plus de problèmes que d'en régler. Donc, les correctifs qu'on a reçus en urgence par Microsoft vient adresser un certain nombre de problèmes de cette nature-là pour corriger des éléments incomplets d'une vulnérabilité qui aurait été corrigée précédemment. On est toujours dans un cycle encore où les fournisseurs courent après ce problème-là, puis à quel point ils viennent nous hanter. Fait que c'est vraiment ceux qui ont déclaré qui ont sélectionné les noms de ces vulnérabilités-là ont misé juste sur l'aspect que ça allait avoir parce que on en parle déjà depuis plusieurs mois, depuis 4 mois. On parle de ces vulnérabilités-là, puis on n'est pas fini d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on en aura jusqu'à la fin de l'année de vivre avec ces malheurs-là, puis qui ont été des designs qui datent depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait déjà des papiers académiques qui mentionnait que ces problèmes-là allaient venir nous mordre les mollets. Les mollets. Puis voilà, 20 ans plus tard, nos mollets sont mordus par ces venomites-là parce que on s'est pensé pendant si longtemps plus bon que les autres. Fait que c'est un peu, à mon sens, un peu d'arrogance de la part de ces compagnies-là de penser qu'ils étaient au-dessus de ce genre de problème-là. Et on doit corriger comme des malades sur ça. Puis pour les compagnies, ça va être infernal les coûts qui vont en découler.
Ben, surtout les compagnies qui ont des systèmes exposés. Ben, là, je parle de systèmes exposés. Tous les systèmes sont d'une certaine façon exposés à ce problème-là. Mais les systèmes qui sont directement exposés sur l'Internet avec une adresse IP publique, écoutez, bonne chance, puis soyez vigilants. Puis ça ne veut pas dire qu'à l'interne, il ne faut pas se protéger, mais vous allez savoir comment gérer vos priorités en termes de pour corriger justement puis ajuster la situation.
Ouais, donc ça va bousculer beaucoup le monde, l'informatique, cette vulnérabilité-là, puis de pas de façon très positive, parce que juste à penser que peut-être des caisses enregistrées sont vulnérables à ce genre de problème-là, fait que c'est la ramification est énorme. Fait que on en revient tout le temps, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en revenir sur ce sujet-là, fait que vous allez en avoir d'autres pendant les prochaines semaines et les prochains mois, bien malheureusement. Puis changeons de nouvelle. Microsoft vient de sortir une patch d'urgence pour corriger un problème dans ce qu'on appelle le Malware Protection Engine, qui est son espèce de module antivirus. Ça fait un peu plus que ça, là, c'est un peu réducteur de dire antivirus, qui vit dans ces différents systèmes qui commencent à être commercialisés. Deux façons de le voir. Microsoft rentre dans le marché de cette protection-là de façon très récente, donc il est normal que son code soit plus vulnérable que ses concurrents parce qu'il est un jeune joueur dans le milieu. Mais en même temps, quand on les entend, les efforts de vente qu'ils font pour nous faire valoir que son système était à parité avec les autres, ce genre d'éléments-là nous met clairement dans la face parce que c'est pas la première vulnérabilité qu'on voit depuis les 12 derniers mois sortir sur cet élément spécifique-là. Sont pas encore le niveau de maturité suffisant peut-être pour pouvoir courtiser les grandes entreprises. Peut-être les plus petites entreprises peuvent être alléchées par ce genre de choses puisque le coût est quand même beaucoup plus abordable que certaines autres solutions. Fait qu'à ce moment-là, c'est de mesurer le degré de risque dans lequel on est capable de vivre avec ça. Puis on passe à la suivante qui est, dans le fond, maintenant passons chez Mac, chez Apple. Puis celle-là, cette vulnérabilité me fascine là, fois 1000. Apple a mis beaucoup d'efforts pour changer son système de fichiers, pour le moderniser. Puis chapeau, parce que c'est pas quelque chose de facile. Ma seule déception personnelle, c'est qu'ils n'ont pas utilisé ZFS pour le faire, mais ils ont décidé de développer leur propre système de fichiers, qui est le APFS. Mais indépendamment de tout ça, ils ont quand même mis beaucoup d'énergie et d'efforts à développer un système qui est robuste. Entre autres, le fait qu'il est chiffré de façon très, très complète, puis il y a beaucoup d'autres éléments très intéressants. Mais cela étant, il y a un aspect qu'ils ont mal designé. C'est-à-dire que dans les journaux du système, les mots de passe pour les systèmes de fichiers chiffrés peuvent être accessibles en clair. Ça rend très perplexe parce que c'est une. En ce sens-là, et pour revenir sur le même élément que Microsoft, ça démontre une certaine forme de non-maturité face à cet élément-là. Donc, comme ils sont partis de zéro pour construire quelque chose de nouveau, on se retrouve avec des bugs d'une équivalent d'une version 0.9 bêta. Puis qu'on mis comme ça disait en pensant que c'était une version 1.0. Étant un grand utilisateur d'Apple, ça me déçoit. Je constate que le degré de qualité a franchement diminué depuis les dernières années. Mais tout processeur de système ce sont macOS, ben upgradé à la version 1.13 2, qui est la version qui est plus et plus avancée, qui n'est pas vulnérable à ce genre de choses-là, puisque moindrement qu'une personne peut accéder aux journaux de système, ben, vous êtes foutu, votre mot de passe pour accéder à l'ensemble du système chiffré est finalement accessible à tout le monde.
Alors, je vais poursuivre pour ceux qui sont pas à jour. Alors, la petite joke du moment, achetez-vous un ours du Québec, avec des griffes de 12 pouces de long, comme Nicolas le prétend. C'est oui. le meilleur moyen
de... des griffes d'un pied de long, il n'y a rien qui fait plus peur que ça.
Pour protéger le Finder.
C'est très important, là. Un ours, là, je pense, mais c'est toi qui faisais mention dans les podcasts qui disait que l'ours, il nous faut un ours. L'ours est l'ultime protecteur.
Oui. Un ours affamé. Traînez des sandwichs dans votre poche ou traînez un fromage Kraft pendant une semaine dans votre poche. Là. Ça va juste, avec l'odeur, là, ça va être parfait.
Ah, l'ours va arriver assez vite, merci. Et terminons avec une nouvelle peut-être un peu plus moins technique dans ce cas-ci, plus de façon de faire. Les SOC auraient peut-être besoin d'avoir plus qu'un SIEM pour être capable de faire valoir leur efficacité?
Ben, en fait, je vais parler par expérience. J'ai, dans ma petite carrière, j'ai effectué des tests pour le cadre de certains Big Four, des tests justement pour produire des SOC, des NCMC 3416, SAS 70, 5250 ou 5270, peu importe, à l'époque. C'est pour beaucoup de compagnies un bel outil marketing. Là, je vous donne mon interprétation par expérience. Vous irez lire l'article. L'article, ça prend un petit peu, je vais vous avouer, d'expérience pour faire le pont entre les deux. C'est pas très parlant. Par contre, un SOC, c'est tout simplement une déclaration de contrôle pour l'information, les applications, les services que vous offrez à une clientèle X, que ce soit des compagnies d'assurance, des banques, des supermarchés, des compagnies de disques, du copyright, peu importe, qui va donner l'assurance justement que les données confiées chez vous, les services utilisés chez vous vont démontrer que vous appliquez des contrôles. Exemple, des contrôles d'opération. Donc, toutes les opérations sont gérées avec succès jusqu'à la fin de l'exécution. Quand il y a des problèmes, des incidents, peu importe le modèle utile que vous voulez utiliser, ben il y a des rapports d'exception, il y a reprise, on règle les correctifs, etc. On fait des contrôles d'accès, on embauche du personnel, on fait du criminal background check, on gère des accès, le personnel à l'interne chez le fournisseur. Les accès sont gérés, sont contrôlés, etc. Tout ça, souvent, est des tests qu'on appelle ponctuels. Ce que l'article dit ici, c'est des tests en continu, des journaux en continu, des journaux qui viennent des fameux SIEM, des journaux qui sont très parlants, où on est capable de déterminer sur toute la période de façon très claire et concise que pour toute la période, pas juste au moment où l'auditeur vient exécuter son test, toute la période a réussi à démontrer que tout ce qui était anormal a été soulevé, a été investigué, et puis les cas néfastes ont été réglés. Donc, un SIEM, c'est très important. Un SOC, c'est un bel outil marketing, mais une combinaison des deux. Puis une combinaison des deux, et s'il vous plaît, je rappelle en continu, parce que c'est pas vrai que le fournisseur va faire venir son auditeur à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, à tous les mois, pour justement venir exécuter ses tests pour démontrer que à l'interne, on a bien géré nos logs, on a bien géré ci, on a bien géré ça. C'est facile d'avoir une information qui s'étale sur 10 mois, on vient faire des tests, on trouve un problème, OK, whoops, on est en octobre, le problème est arrivé en janvier, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a attrapé quand? On l'a attrapé en octobre, le problème, ou on l'a attrapé en janvier? Fait que c'est important ici, le SIEM vienne parler en temps réel. Donc, le SOC, dans toute sa nature, va être capable de dire que sur toute la période, Il y a des tests qui ont été effectués, qui ont été exécutés, des actions ont été prises, des décisions ont été prises, puis ça s'est fait en temps réel au moment où ça s'est produit, à intervalles très petits, et puis la correction a été appliquée dans un délai plus que raisonnable. C'est ce que je retiens surtout de cet article-là. Ce que les SOC à l'époque pouvaient pas tout à fait démontrer, parce que comme auditeur, on débarque, on a le log a 5000 pages, il s'étale sur 9 mois, il y a eu un problème de 6 mois, OK, oui, on l'a réglé, on l'a-tu vraiment réglé, on n'a pas été averti, ça apparaîtra pas dans le SOC, ça. Ça apparaîtra pas au mois d'octobre, par exemple, dans le SOC. Pourquoi? Ben, c'est arrivé en janvier, on l'a pris en charge. Est-ce qu'on veut que ça apparaisse dans le SOC? Ben non, c'est un outil marketing. C'est de la mauvaise presse, là, si on a des problèmes. Mais de le faire de façon diligente, intelligente, on est capable d'arriver à un SOC qui est beaucoup plus parlant, beaucoup plus véridique. Moi, c'est ce que je retiens.
Ouais, ben pour exécuter un mandat, il n'y a pas si longtemps que ça sur se regarder des choses. Le SIEM n'est finalement qu'un outil parmi d'autres. Puis c'est peut-être ça où cet article-là est important parce qu'il relative l'importance du SIEM dans une posture de sécurité. Et pour son utilisation pour un SOC, puis j'ai débattu cette idée-là avec beaucoup de personne, puis dans laquelle on est arrivé, c'est des outils qui sont des aides à la décision. Ça remplace pas l'analyste de sécurité. Fait que l'expert qui connaît de ce qu'il parle ne peut pas être remplacé par un CEM. Ça, c'est une chose, puis il ne l'aide qu'à faire son travail. La deuxième, c'est que maintenant, les CEM, c'est qu'ils sont rendus à un stade où sont au même niveau que les autres composantes de sécurité comme antivirus, filtre web, etc. Ils sont le même degré d'importance dans l'arsenal du SOC et de l'analyse sécurité qui interprète cette information-là. Donc, c'est juste un gros ramassis d'informations qui est plus ou moins analysé. Après ça, là, il s'en vient des systèmes beaucoup plus sophistiqués, puis j'ai vu des appels d'offres d'ailleurs passer là-dessus plus récemment. Fait que je vous constate que le marché de Québec se réveille à ce genre d'outils-là. J'ai vu c'est Resilient puis Simplify qui sont deux outils, puis il y en a d'autres. Là. Je ne vais pas faire attention spécifiquement à ces deux-là, puis je ne les ai pas de façon directe utilisés, fait que je ne peux pas en voucher pour la qualité de ces outils-là. Mais ces outils-là, finalement, viennent faire, c'est qu'ils rajoutent une couche d'orchestration par-dessus l'analyse des informations utilisées par le SIEM et d'autres sources pour arriver à de la mécanisation de réponse pour des éléments qui sont clairement définis, qui établissent finalement des workflows, un peu comme on voit en GIA, mais dans ce cas-ci, au niveau de la réponse à une menace, que des workflows semi ou complètement automatiques qui vont exécuter des réponses. Dans cette perspective-là, le SIEM n'est qu'une mesure parmi d'autres, mais ça ne remplace jamais, et pas encore, l'analyse sécurité qui donne toute la compétence et la contextualisation. Puis c'est un aspect très important de ces affaires-là parce que on a certaines compagnies qui vont prétendre qu'on peut sous-traiter ou mettre à l'externe toute cette analyse-là parce que, un, c'est trop dispendieux, on s'en étend de ça. Le problème, c'est que la sécurité est excessivement contextuelle. Elle est très dépendante du contexte de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme qui fait appel à ce genre de choses-là. Très difficile à sous-traiter dans ces conditions-là. Puis, troisième élément, puis parce que je l'ai vu de façon plus directe, c'est que quand on a un incident, et là, c'est l'apparition de tous les outils EDR qui amène l'analyse pseudo-post-incident, c'est-à-dire qu'on a eu une vulnérabilité qui est rentrée dans l'organisation, elle a créé des dommages, puis il ne faut pas s'en cacher, là. 100% des organisations à l'heure actuelle ont connu des infiltrations ou des vulnérabilités. C'est la qualité de la réponse qui suit qui est importante. Et ces outils-là viennent sont des aides à la décision qui sont très importantes, qui aident les analystes à connaître la porte d'entrée de ces vulnérabilités-là, qui sont généralement très spécifiques à chaque organisation. Savoir où, sur quel poste était vulnérable, quel élément est rentré, où c'est rentré, qu'est-ce que ça a fait et pourquoi ça a fait ça. Et ensuite, d'arriver dans une fenêtre de résolution, au lieu d'être de 5 heures, d'être une fenêtre de résolution de 1 heure ou peut-être même en bas d'une heure. Donc, c'est un ensemble de mécaniques très intéressantes, mais on doit aller plus loin.
Tout à fait. Tout à fait. Les journaux sont une source d'information importante. Il faut savoir traiter les informations. Il faut savoir quoi divulguer, quoi ne pas divulguer. Qu'est-ce qu'on inclut dans un SOC, qu'est-ce qu'on n'inclut pas. Il faut juste faire attention, justement, à la divulgation des activités de contrôle qu'on met en place pour atteindre les fameux objectifs qu'on déclare dans le SOC. Et puis, avoir l'information la plus véridique possible. Écoutez, faites affaire avec une compagnie où il n'arrive jamais de problème quand toutes les autres divulguent bon, certaines anomalies, certains problèmes. Posez-vous la question, là. L'information est traitée de quelle façon, là? Tout ça est nuancé. N'oubliez pas que c'est un outil marketing. Alors, moi, je fais un appel à tous les spécialistes en entreprise avec qui ils font affaire, avec des compagnies tiers où ils confient des services, des données. Posez-vous la question, quand vous recevez un rapport justement du fournisseur depuis des années, et puis ce rapport-là, il n'y a jamais de réserve, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps propre. Tout ce qu'on entend à gauche, à droite, on va parler d'Equifax, on va parler d'Amazon, on va parler... C'est tous des fournisseurs de services, ils subissent, c'est des gros fournisseurs, ils ont des ressources avec un potentiel incroyable, ils ont des employés spécialisés, ils subissent des problèmes. Posez-vous la question, là, est-ce que... Je dis pas que vous avez pas l'heure juste, mais est-ce que... La façon dont le contrôle est testé pour démontrer son efficacité, est-ce que ça représente la vraie réalité ou une réalité qui est simplement ponctuelle?
Oui, puis de toute façon, dans ces contrôles-là de sécurité, mon impression, c'est qu'on n'a pas encore une maturité aussi grande qu'on a dans d'autres domaines. Puis là, je fais appel à ton... J'interpelle ton expérience en vérification interne, toute la notion de contrôle comptable a une excessive grande maturité. Et quand tu arrives dans un domaine, disons, du cyber, ce degré de maturité-là n'est pas aussi élevé. C'est un domaine qui est encore jeune et dans lequel on est encore en train de se chercher. Ce qui fait qu'on a beaucoup de professionnels, qui ont parfois prétendent plus que qu'est-ce qu'ils sont parce que sont contents, sont enthousiastes par rapport à leur connaissance, mais dans les faits, même le domaine est jeune, donc c'est beaucoup plus difficile de mettre des balises claires. On commence à avoir des balises claires en ce sens-là, des organismes comme le NIST, ISO, tout ça, ils sont en train d'en donner. Mais l'applicabilité de ces mesures-là est peut-être un peu plus complexe, et j'adore ces référentiels-là parce que ils ont mis beaucoup de gens brillants, puis beaucoup plus brillants que je peux être, dans une même pièce et de s'assurer qu'il en sorte quelque chose de super intéressant et utilisable par tout le monde.
Ah, écoute, j'aime ta référence justement à maturité justement des firmes comptables. Ou pour les contrôles comptables. Écoutez, c'est pas de la magie, les contrôles comptables, mais les comptables, ils l'ont compris, puis ils sont assez vedettes, on va dire, à ce niveau-là, sont durs à duper. Moi, ce qui me fascine encore plus, c'est que on fait affaire, là où je travaille avec des Big Four. Toi et moi, Nicolas, on a travaillé pour un Big Four. Les comptables s'intéressent à la cybersécurité, puis wow, ils ont des call-ins de beaux modèles d'activités de contrôle, de réflexion à des contrôles, justement. Puis c'est pas à la base des spécialistes en sécurité. Mais je pense que ça vaut la peine de les écouter parce que sont allés, ils ont su aller chercher dans la table de spécialistes, justement, en informatique, pour aller chercher une expertise extrêmement pointue, puis ils sont bons là-dedans. Je veux pas dire que les compagnies en informatique sont pas bonnes, mais les comptables ont des boîtes, des divisions, des secteurs d'activité où ils sont très bons là-dedans, là. Puis ils ont une maudite belle approche puis une belle méthodologie aussi.
Ouais, mais en dehors de la réflexion sont purement comptable, peut réduire. C'est effectivement, on a passé par la même école. Que j'ai apprécié énormément parce que ça m'a donné une rigueur, ça m'a donné une réflexion qui est beaucoup plus axée sur les affaires, qui est moins axée sur la technologie, ce qui met beaucoup plus en perspective facilement le fait que mon pur trip technologique parfois n'a aucune résonance chez les gens d'affaires, et avec raison d'ailleurs. Et ils ont un corpus de connaissances qui est assez intense sur la gestion des contrôles, sur la malversation, tous ces éléments-là en cybersécurité, on essaie de s'inventer un vocabulaire. Eux, ça fait plusieurs années, plusieurs centaines d'années qu'ils l'élaborent, qu'ils le raffinent, qu'ils l'amènent à un système beaucoup plus intéressant. Donc, toutes les notions de contrôle compensatoire, tout ça, qui émane de cet univers-là, qui est fort intéressant parce que c'est des mesures qui ont été réfléchies sur des dizaines, ou c'est pas des centaines d'années, sur sous-peser le comportement de l'humain et le protéger contre lui-même dans des circonstances qui pourraient être complexes. Donc, en cybersécurité, c'est sûr qu'on peut réutiliser ça. Et considérant que, puis ça, c'est l'autre axe qui n'est pas comptable, mais dans ce cas-ci qui est actuaire, et ça, Vincent, t'es probablement beaucoup plus confronté à ça que moi. Les actuaires sont des spécialistes et même des grands champions dans l'analyse du risque.
Non, je vais dire des artistes.
Des artistes.
Oui, c'est des artistes dans les analyses du risque. Donnez-leur un paquet d'informations qui n'ont rien à voir entre elles. Ils vont être capables de sortir un résultat. Le plus juste, souvent le plus juste possible. Je ne dis pas qu'ils ont tout le temps raison, les actuaires, c'est des artistes, c'est des gens étranges. Mais les actuaires sont assez qualifiés et habiles, justement, pour traiter toutes sortes de natures d'informations, les faire jaser entre elles, puis arriver avec un résultat. Un résultat dont souvent on ne s'attendrait pas. Puis, le chapeau, les actuaires, on a besoin de vous autres, là. Vous n'êtes pas bon dans l'écoute, là, mais vous êtes bon dans le risque.
Ben, c'est des kings du risque, là, fait que c'est un univers dans lequel je pense que vous arrêtez de s'inventer des nouvelles affaires en sécurité puis s'appuyer sur des gens qui l'ont déjà fait.
Oui, tout à fait.
Essentiellement, là, pour résumer ce qu'on vient de dire, c'est ça.
Ben, justement, parlant d'actuaire, petit parallèle ici, là, avant de terminer. J'ai assisté à une présentation, là je vais faire de la promotion, mais c'est pas mon intention là. J'ai assisté à une belle présentation de Doc Trace avec l'outil d'analyse en temps réel d'événements que j'ai trouvé fort intéressant. Doc Trace, où un des fondateurs, ou un des maîtres fondateurs, on va dire, c'est pas un technologue, c'est un docteur en mathématiques. Tout ce qu'on lui a donné, c'est des bases de données, c'est des logs, c'est des chiffres. Et puis, il est arrivé à produire une matrice d'événements. Une matrice d'événements qui était interprétable par des organisateurs d'événements informatisés, justement pour dire si c'était une menace ou pas une menace. Et puis, c'est le mathématicien qui a donné la formation, ben, en fait, la séance d'information. Et puis, un Anglais avec un fantastique accent. Et puis, chapeau à la présentation, le mathématicien a réussi à faire parler justement ses algorithmes. C'était tangible, c'était compréhensif. On voyait une passion dans ses yeux. Il n'est pas du tout PDG de la compagnie qui a fondé, C'est un opérateur. Lui, il veut être dans l'action. Il veut voir les données. Il veut continuer à les analyser. C'est sa passion, il aime ça. Puis, pour être actuaire, il faut être bon en maths.
Effectivement. Bon, fait que sur ça, on a déjà dépassé largement notre temps habituel. À deux, on a réussi à faire plus que ce qu'on fait d'habitude à plus.
On est des artistes.
On peut voir ça comme ça.
Puis l'ours, il court pas plus vite que nous autres.
Non, dans ce condition-là, non. Puis pour ceux qui savent comment l'ours est fait, si vous voulez vraiment vous sauver d'un ours, dans la vraie vie, courez dans une pente descendante parce que l'ours a les pattes avant plus courtes que les pattes arrière, ce qui lui empêche de courir dans une pente qui descend. Ça a le désavantage énorme. Il risque justement que son derrière passe par-dessus les pattes avant. Fait qu'il va comme rouler jusqu'en bas.
OK, donc il faut breaker, mais qu'il se mette à rouler, là.
C'est en plein ça, il faut passer dans l'autre sens.
OK, phew!
Stratégie, il faut pivoter. Parce que si on pivote pas, puis on regarde dans une stratégie qui, en cours de chemin, devient inefficace, il faut la changer, là. C'est la stratégie de base.
Écoute, si jamais ça arrive, essaye, moi je te regarde. C'est toi en premier.
J'espère pas te trouver devant un ours parce que je suis pas mal sûr qu'il va me bouffer avant toi. J'ai pas la forme physique pour courir plus vite qu'un ours.
Surtout si c'est un ours québécois, hein, avec les griffes de
dos. Ouais, c'est les pires.
Oui, un ours de 16 tonnes, là.
Ah, c'est bon. Sur ce, bonne semaine.
Hey, bonne semaine à tout le monde. Ciao, à la prochaine.
Bye.